Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade méloman, c'est Ron.
Et bienvenue dans la Beatsbox.
Aujourd'hui, nous allons explorer un paradoxe digne de Retour vers le futur, puisque notre sélection du jour se concentre sur les mal-aimés. Ceux dont on évite habituellement de parler, les mauvais jeux. Mais attention, hein, pas n'importe lesquels, cela reste la Beatsbox et notre mission est de vous abreuver de bons sons. On va donc écouter des musiques qui, elles, sont excellentes et on aura une pensée pour leurs auteurs qui se sont appliqués à rendre une jolie copie qui risque de sombrer dans l'oubli en étant accolée à des jeux médiocres.
Alors autant vous dire que cette émission est devenue un spot contre les précommandes, puisque vous allez voir qu'il y a un grand nombre de jeux ici qui étaient overhypés, overattendus. Alors certes, on aura des petites choses plutôt sympas à raconter, mais globalement, c'est vraiment des titres hyper mauvais. Et on commence tout de suite sur de la vieille console. C'était Silver Surfer sur NES et Ron vient juste de me dire mais dis donc elle est super cool cette musique.
Et c'est vrai.
Eh ouais, t'as carrément raison. Mais alors autant vous dire que quand on commence à jouer au jeu, on se dit surtout aïe 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 qu'est-ce qu'on prend. Alors on parle souvent des Tortues Ninja quand on parle de jeux très très durs hein, sur Nintendo. Rappelez-vous, on avait tous galéré sur Tortues Ninja. Alors un petit peu plus confidentiel, donc le Silver Surfer, l'adaptation du personnage culte de Marvel, alors m'a fait passer un sale quart d'heure, moi je peux vous le dire. Au point que, on en a même fait un défi lors d'un anniversaire chez un pote, donc imaginez à quel point c'était balèze de pouvoir avancer dans le niveau. Mais bon, voilà, c'est un jeu que je vous recommande juste pour voir à quel point c'est balèze, mais surtout que je vous recommande parce que la musique donc est formidable, et elle est composée par Tim, alors Follin ou Folline, je ne sais pas du tout, on va dire Follin, comme Sébastien.
Allez.
Donc la musique est vraiment un régal, elle est énergique, elle est entraînante, et elle te donnerait presque envie de ne pas jeter ta manette contre le mur après être mort, on va dire, environ 40 fois sur le même passage. Alors sur Tim Follin, j'ai 2-3 petits trucs sympas à dire. Il était considéré à l'époque comme l'équivalent d'un Chris Hulsbeck ou d'un Rob Hubbard, excusez-moi du peu. Hein, c'était un peu un maître de la chiptunes qui a énormément travaillé sur le ZX Spectrum et le Commodore 64. Et oula, petite anecdote, le mec n'avait fait aucune étude de musique. Et c'est son papa qui lui a dit, bah écoute, je pense que faire de la musique de jeux vidéo, ça peut être cool. Et franchement, son père, il avait du nez, on peut le dire. Allez, changement de console, on passe sur Saturn, donc forcément, c'est Rhône.
We'll be right back.
Everybody Supersonic Racing. Oh là là, ça reste dans la tête. Alors je suis d'accord, ce n'est pas de la grande musique, hein. On est d'accord.
On est d'accord.
Mais n'empêche quand même, c'est entraînant, ça fout la banane, donc on se dit, bah ça va être sur un super jeu. D'autant plus que, alors c'était Sonic R, hein, Sonic Racing, qui est sorti sur Saturn et qui a à peu près tous les symptômes d'un jeu bâclé. Ce qui est quand même quelque chose de très rare sur un jeu Sonic. Donc rappelons-nous, hein, on était sur Saturn, on sortait de la Mega Drive où il y avait des Sonic à tour de bras qui étaient tous mieux les uns que les autres. Donc tout le monde sur Saturn attendait quoi? Bah Sonic! Il fallait absolument qu'il revienne. Et qu'est-ce qu'ils nous ont balancé? Sonic Racing.
Alors, et là, c'est le drame.
Ah ouais, alors clairement c'est le drame. À la base, l'idée elle est pas absurde, faire un jeu de course avec Sonic qui court très vite, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'on peut dire que dans ce jeu, bah tout est raté. C'est moche, c'est blindé de bugs. Je me rappelle avec émotion de toutes ces parties où je suis resté coincé en ratant un anneau contre un caillou ou en dehors de la piste, à moitié dans la mer. Ah, c'est une catastrophe, la maniabilité est épouvantable, c'est un vrai défi de réussir à prendre en main Sonic, ne serait-ce pour faire une ligne droite. L'affichage 3D, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Alors je vous vois venir, hein, vous allez dire oui c'est Saturn, la 3D, etc. Je vous rappelle que c'est la machine sur laquelle il y avait Sega Rally quand même. Donc on pourrait se dire, tiens, il savait faire normalement. Eh ben pas sur Sonic Air, hein, les spécialistes de l'affichage 3D étaient en vacances probablement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une catastrophe de bout en bout. Alors, sauf pour les musiques, hein, qui sont composées par Richard Jacques et qui, à mon sens, déboîtent. Parce que il y a de la joie dedans, il y a du fun, et elles parviennent presque à nous entraîner à jouer quand même au jeu, malgré sa médiocrité. Bon, pas pendant trois plombes, hein, déjà à l'époque, je dois dire, je pense que je l'avais revendu quand même assez vite avant que les gens ne se rendent compte de l'escroquerie. Mais tout de même, allez, ça valait le coup. D'ailleurs, les thèmes sur Sonic Racing ont été repris par la suite, hein, dans d'autres jeux Sega, hein, dans des compilations, comme quoi finalement, bon bah voilà, il y avait peut-être ça à sauver dans ce titre. Mais alors vraiment pas autre chose. Allez, on va changer d'ambiance, on va passer maintenant du côté de chez Nintendo, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, faut que tout le monde ramasse, hein, ce soir, avec un jeu qui à mon sens est extrêmement surcoté. D'entendre un morceau qui s'appelle Sarah Goodbye, tiré du jeu Breath of Fire, sorti en 1993 sur Super NES. Alors oui, ça y est, j'entends déjà les amateurs de JRPG qui à mon sens ont beaucoup de tolérance avec leur style de prédilection, qui disent non, c'était vachement bien, etc. Non, excusez-moi, mais non, faut pas exagérer. En 1993, je vous rappelle qu'à cette époque, il y avait les jeux Square qui sortaient, qui étaient des petits bijoux. Et c'est peut-être pour ça que Capcom s'est dit, tiens, moi aussi, je vais faire une série de jeux de rôle. Alors, ils nous ont fait Breath of Fire. Qui, fondamentalement, n'est pas le pire jeu du monde, c'est juste qu'il cumule la totalité de tous les poncifs possibles en JRPG. Et pourtant, en JRPG, il y en a déjà des poncifs. Hein, mais là, ils y sont tous, il y a un tel niveau de non-imagination qu'on a l'impression dès les premières minutes d'avoir finalement déjà fait le jeu. Alors c'est un ennui qui se dégage de ce titre qui est absolument remarquable. Bon, malgré tout, j'ai avancé sur ce jeu, bon, pas jusqu'au bout, parce que dans le même temps, il y avait Chrono Trigger, Final Fantasy VI ou les Phantasy Star, donc c'est quand même un autre calibre. Mais une des choses qui m'a un petit peu retenu, c'est tout de même les musiques du jeu, qui elles sont franchement pas mauvaises. Alors, elles ont été composées par l'équipe maison de Capcom, Alf Lila. Alors, il y a plein de noms derrière, je vous en fais grâce, vous pourrez aller les chercher. Et c'est presque une anomalie totale sur ce jeu, tant leur qualité est surprenante. Je sais pas ce que vous avez pensé du morceau que vous avez entendu, mais voilà, moi je...
C'est très beau.
Ouais, je le trouve très, très vraiment beau. Très beau. Et très bien adapté aussi aux chips sonores de la Super NES. Ce sont vraiment des sonorités qu'on ne peut avoir que sur SNES. Le son de la Mega Drive étant plus métallique, on peut pas obtenir ce son un petit peu rond comme ça, comme on l'entend. Donc j'ai surtout envie de dire, heureusement pour les compositeurs de Breath of Fire, le jeu a malgré tout connu un succès, donc à mon sens immérité. Donc au minimum, il y a eu pas mal de gens qui ont entendu leur travail et c'est déjà ça.
En tout cas, ce qui ressort et qui me frappe sur ce titre que je ne connaissais pas du tout, c'est à quel point avec, on l'a déjà dit dans les précédentes émissions, mais à quel point avec justement un chip sonore qui normalement est assez léger pour faire passer des émotions, pourtant ça fonctionne. Et ça, quand on voit le titre de la musique qui est Sarah Goodbye, donc tu te dis voilà, c'est un peu près triste, et tu le ressens sans connaître le titre de la musique, parce que j'ai commencé à me dire tiens, il y a une vraie mélancolie dedans, et tu sens qu'il y a une histoire dans cette musique là. Et après j'ai vu le titre, et je dis effectivement, on sent qu'il y avait vraiment quelque chose à dire et à vivre à travers cette musique, et ça fonctionne plutôt bien.
Allez, maintenant on va passer sur une des plus grandes déceptions intergalactiques de tous les temps dans le monde des jeux vidéo.
Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Duke Nukem Forever. Vous savez les amis, être une Arlésienne ça a parfois du bon. Tant que tu ne sors pas, on ne sait pas que tu es mauvais. Et ta légende continue de grandir. Alors certes, on commence à se poser des questions, mais tant que ton cadavre remue encore un peu, malheureusement, on garde encore espoir. Et un jour te voilà. Oui, te voilà Duke Nukem. Faut dire, tu as des fières allures dans ton collector à 90€, et moi, comme un âne, je t'achète, comme ça, innocent. Et peut-être même un peu fier, je pense. Ça aurait été en 2016 ou 2017, j'aurais peut-être même fait un selfie avec cette boîte. Une fois à la maison, j'ouvre cette boîte, j'insère le jeu dans ma Xbox, et là, le drame. Avec du recul, tu ressemblais à une star hollywoodienne sur le retour. Retapé de partout, avec un max de cicatrices apparentes, on pouvait peut-être même voir un peu de pus couler. Ces 13 années de développement t'ont fait du mal, et ça je le sais. Et à trop t'avoir réclamé, on est sûrement tous un peu coupables. Pour cette raison, Duke, je garde précieusement ton collector en souvenir, et surtout, pour ne jamais oublier que la précommande, c'est le mal. Le mal au cul. Peace Duke.
Alors, en complément de cette belle déclaration, sachez qu'en ce qui me concerne, le meilleur moment du jeu, que j'ai vraiment retenu, je pense que c'est le début quand on pisse partout. Ce qui donne une petite idée du niveau global de ce fameux Duke Nukem Forever.
Mais en fait, il nous pisse dessus. Mais c'est pas grave, Ron. On reste dans le nanar. Le velu, le poilu. Et on reste sur Xbox 360 aussi.
Like a ninja style. I'm gonna bring it to him. I'm gonna show him what time it is. Good spot to bring the noise. Ah. You morons will love this. Hope you assholes like fireworks. Ooh. Fucking commies keep getting in my way. No surprise, motherfuckers.
Happy fucking birthday.
That's right, Natty, now you sweet piece of shit. Enjoy the ride, cocksucker. Have a nice trip. Boom time, baby. Trick or treat. Looks like a party. Come on. I got places to go and people to meet. Assholes are everywhere. Fuckers are out in force. Hi-ho, hi-ho. This fucker's gonna blow. Anytime, anywhere, any place. Kicking ass, taking names. Who's the hardest motherfuckers around, huh? Ah. Rock and roll, motherfuckers, rock and roll. Hide and seek, motherfuckers. Anybody home? Hey, daddy's here. Come on. Glad to see me, fuckers. Send me the bill, motherfucking cocksuckers. I'm over here, fuckface.
There's gonna be fucking asses bleeding all over the place.
Sorry, assholes. Quiet day at the office is about to get severely fucked up.
Non, je t'ai plus. Ah, on était même déjà en train de se fendre la gueule avec Ron en parlant de ce jeu un petit peu avant de relancer l'enregistrement. Et voilà, c'est Rogue Warrior. C'est sorti en 2009. Et pour nous, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans les mauvais jeux, et c'est un mauvais jeu, enfin, pas se le cacher. Mais je pense qu'on peut rentrer dans la catégorie vraiment du nanar.
C'est clair.
Voilà, pour ceux qui connaissent pas le nanar, c'est une œuvre qui est fondamentalement mauvaise, mais un peu touchante, un peu déviante, au point qu'on pourrait comme ça apprécier, rigoler avec lui, et pas contre lui, mais avec lui, t'as envie de le prendre dans tes bras, de te fendre la gueule avec lui, avec une bonne bière, et de dire, écoute, finalement, t'es pas si méchant. Ouais. En gros, Rogue Warrior, c'est un peu un jeu canon approved, voilà, un jeu bis, le vrai. Un peu puant, tu sais, vraiment le poilu, le viril, celui qui se la pète un petit peu, qui se prend pour un gros badass et qui bombe le torse, mais qui est un petit peu gras, comme ça, en dessous, tu sais, un peu comme Bennett dans Commando.
Dans Commando.
Et le pire dans tout ça, c'est que bah, c'est basé sur une histoire vraie, les mecs.
Ouais.
Celle de Richard Marchinko, un vrai Navy Seals, un mec qui a vraiment fait la guerre, et pour qui un bon coco est un coco mort.
Et non pas un coco boy.
Ah non, un bon cocomore, et oui, les Coréens, pour notre bon Richard Marchinko, bah, c'est plus sympa quand ça bouge plus que quand ça remue un peu. Donc c'est un jeu qui est bourré de punchlines débiles. Alors j'ai envie de dire à la limite du racisme, dès l'entrée de jeu, vous arrivez derrière un mec et lui dit « Salut Francis !» et lui explose la tête contre un pneu, donc c'est plutôt sympathique. Donc en gros, si tu aimes Steven Seagal et Chuck Norris, camarade auditeur, tu es au bon endroit. Donc ça balance, comme j'ai dit, plein de punchlines dans tous les sens. Ça démonte du terroriste au shotgun. Et le tout en souriant, parce que le mec a la banane tout le long. Lui, ça l'amuse hein, ouais, d'exploser un peu tout ça. C'est un peu comme si on vivait, comme en un peu plus long, un long métrage de Joseph Zito. Voilà. Donc ceux qui ont vu Invasion USA savent de quoi je parle. Et donc pour accompagner une histoire aussi badass, le studio Rebellion a fait appel donc, à Mark Rutherford pour la musique et pour le doublage de notre héros incroyable, Mickey Rourke.
Quand même. Hein.
Voilà. Et si on mélange tout ça, eh ben, on obtient le rap le plus étrange de tous les temps. Et pour un jeu, bah, complètement what the fuck, quoi. Donc, honnêtement, je sais pas si je dois vous déconseiller ou vous conseiller Rogue Warrior. Moi, je l'ai dans ma collection. J'en suis content.
C'est ça.
Plus content que Duke Nukem Forever, en tout cas.
Alors, moi, c'est Rogue Warrior. Hein, j'en avais rédigé un test pour Xbox Hygiene. Hein, je vous conseille d'aller sur le site et d'aller le chercher. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Je pense que j'irai jusqu'à le conseiller. Ne serait-ce pour voir ce que c'est, que pour constater dès l'introduction du jeu qu'on nous explique qu'on va partir pour une mission d'infiltration, mais avec des pains de C4, hein, parce que c'est ça l'infiltration. Donc le ton est tout de suite donné sur le jeu. Quand on commence à jouer pour constater à quel point on va faire des headshots en visant les nuages et à l'inverse on va rater des mecs en leur tirant dessus. Quand on essaye d'avancer discrètement, on peut, et c'est authentique, hein, se cogner contre un ennemi qui ne s'en rend pas compte.
Il s'en fout.
C'est une espèce de... C'est un festival permanent, Rogue Warrior. C'est une espèce d'émerveillement jusqu'à la jaquette, hein, qui est sensationnelle.
Ah ouais.
Voilà, moi c'est un souvenir ému et c'est Creepers qui a dégainé, hein, le premier sur Rogue Warrior, mais franchement il était sur ma liste aussi. Hein.
Alors attends Ron, j'ai deux anecdotes. Magnifique, ce que tu me parles de la jaquette, ça me revient comme ça en mémoire. À l'époque je bossais dans un magasin de jeux vidéo très connu et j'ai un client, donc on bossait dans une grande surface, donc dans les galeries marchandes, et il y a un mec qui vient et dit écoutez, j'ai acheté ce jeu là donc là-bas. Et il m'a dit, il m'a conseillé ce jeu-là pour si j'étais fan d'Assassin's Creed. J'ai dit, bah écoutez, soit il s'est foutu de votre gueule, soit vraiment il y connaît rien du tout. Et deuxième anecdote, donc je salue Romain Grognon, un habitué du site Xboxygène, avec qui on a voulu, à l'époque on était un petit peu à la chasse aux trophées, au succès, tout ça. Et donc déjà j'ai fait le jeu deux fois de suite, hein, bon ce qui prend à peu près 3 heures, ce qui n'est vraiment pas très long. Et on a voulu se rejoindre sur une partie multijoueur, et donc on a eu du mal parce qu'on était que deux, il semblerait, à jouer à Rogue Warrior en multijoueur. Et on s'est retrouvé sur une map où on s'est rendu compte qu'à un moment, sur cette map, toutes les 20 secondes, il y a un chat qui miaule, tu sais pas pourquoi. Donc t'es là, on était là tous les deux à essayer de se trouver, puis on entendait miaou,
miaou. C'est limite, t'es pas surpris si t'entends pendant que tu joues Philippe.
Ah mais c'est exactement ça. Les fans de Nanarland apprécieront, en tout cas Rogue Warrior, c'est une bonne blague, c'est une bonne tranche de rigolade, donc si vous avez 5€ parce qu'il coûte pas plus, bah allez-y pour un samedi soir avec une bière, à la limite avec des potes, bah c'est tout cool. Allez, on reste dans le thème du nanar. Et cette fois, c'est la partie cinéma.
Rolling like a thunderbolt, crashing through the wall. God.
Alors, vous venez d'entendre la chanson qu'on entend plusieurs fois dans le film Whitefire. Alors, Whitefire, c'est un film qui est sorti en 1984, un film français, monsieur, réalisé par Jean-Marie Paillardy. Et il se trouve que c'est un des nanars ultimes au monde. Alors pareil, les habitués de Nanarland connaissent forcément Whitefire. Bon, laissez-moi vous décrire tout de même le pitch, hein, qui va, je suis sûr, vous épater. Alors ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont coincés en Turquie. Il doit y avoir des murs en Turquie, je ne sais pas. Et pour pouvoir partir de Turquie, ils veulent voler des diamants, dont le diamant ultime, le Whitefire, qui a un super pouvoir que j'ai toujours pas compris. Il brille, mais en dehors de ça, c'est pas très très clair. Et voilà, c'est le film. Et dans ce film, on a donc des bastons, des poursuites, des scènes qui n'ont aucun sens, mais vraiment aucun sens. Hein, avec des rebondissements incroyables, comme la petite amie du héros, on en parlait à l'instant avant de redémarrer l'enregistrement, qui pour être plus discrète, subit une opération de chirurgie esthétique, ce qui lui permet de ressembler à la sœur du héros.
Mmh. Hein,
réfléchissez à ça, hein, je voudrais que ma
ça
femme ressemble à ma sœur.
Ça serait pas un petit peu bizarre comme relation.
Alors voilà, donc c'est un film vraiment complètement fou. Si vous cherchez un peu sur internet, vous avez moyen de le regarder.
Ah, clairement, c'est facile à trouver.
Et franchement, faites-le, regardez ça avec trois potes et quelques bières, mais enfin, même seul, à la limite. Mais,
ouais, même seul. Ouais. Non, c'est vraiment le cinéma autre. Ouais. Voilà, on parlait de Nanar avec Rogue Warrior, mais c'est ce qui définit, c'est ce qui a même défini l'identité un petit peu de Nanarland. Ça fait partie des films comme ça qui sont, la plupart des lecteurs du site lui vouent un véritable culte. Et alors toi, pour moi, on a eu deux chances. Toi, tu l'as vu en VHS, la vraie VHS. Tu as trouvé cette VHS dans un cache converteur, enfin un truc qui était un peu l'équivalent de l'époque. Et bravo. Par contre, bon, tu l'as revendu, t'es un petit peu. Voilà, tant pis pour toi. Et moi, je l'ai vu en salle justement dans une nuit excentrique, dans les premières nuits excentriques qui étaient organisées justement à Nanarland sur Paris, parce que j'aime bien y aller une fois par an. Et je pense qu'un jour il faudra y aller ensemble, Rhône, parce que ça serait magnifique. Et les nuits excentriques, donc c'est quatre films. Entouré avec des bandes annonces, des jeux, etc. Donc tout sur le nanar. Donc imaginez l'ambiance dans la salle, c'est juste de la folie. Et donc j'ai vu Whitefire en salle. Et donc il y a des répliques complètement folles. Il y a par exemple Fred Williamson qui balance à un moment ma patience a des limites, mais il ne faudrait pas exagérer. C'est des trucs qui veulent absolument rien dire. Il y a donc des histoires un petit peu incestueuses, des combats à la tronçonneuse. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Et c'est vrai que bon, même si seul ça peut passer, franchement, avec un public, soit accompagné de potes qui sont un peu dans le trip, c'est juste formidable.
Et alors, pour revenir sur la chanson hein, qu'on a passée, donc elle est interprétée par le groupe Limelight, hein, donc sur lequel je n'ai rien trouvé à peu près.
C'est normal, je pense.
Voilà. Je vous en voudrais pas si vous me dites qu'elle n'est pas extraordinaire cette chanson. C'est vrai, elle n'est pas extraordinaire. Mais j'avais du mal à ne pas la passer dans le cadre de cette émission parce que elle reste énormément gravée dans la tête. Alors déjà parce qu'on la martèle hein, pendant le film, on l'a entendue plus d'une fois. Et à tel point que le film Whitefire, donc je ne l'ai pas revu depuis évidemment des années et des années, et pourtant quand on a défini le thème, limite ça fait tilt dans ma tête, j'ai entendu « Whitefire !»«
Whitefire !»
Comme quoi finalement, je sais pas, on est peut-être passé à côté d'un véritable tube. Allez, laissons les nanars de côté pour nous pencher maintenant sur une adaptation de film, quoique finalement on est peut-être toujours dans le nanar à la réflexion.
We'll be right back.
Les adaptations, on est tous d'accord, souvent, c'est nul. C'est vite torché, c'est juste pour tirer bénéfice d'une licence. Mais alors qu'en plus la licence de départ est déjà pas glorieuse, là je vous laisse imaginer le résultat, puisqu'on est en train de parler de Eragon, l'adaptation du film éponyme, sorti en 2006 sur PS3 et Xbox 360. Et bon, on va pas tourner autour du pot, hein, le jeu est nul, n'a absolument aucun intérêt, sauf l'anomalie majeure, vous l'avez forcément remarqué puisqu'on vient de passer le morceau, mais ce morceau, il démonte. Quand on entend ça, on a juste envie de se dire, en fait on doit être sur Witcher 3 là, ou sur un jeu comme ça. Non, on est bien sur Eragon. Alors c'est pas de chance pour le compositeur Rob Mills, qui nous a probablement sorti une des musiques que très franchement je considère comme étant une des plus épiques jamais faites.
Il a tout donné le mec.
C'est clair. Il nous sort un truc de fou. Et sur quoi ? Sur Eragon. Vraiment pas de bol pour lui. Alors mon conseil du jour finalement, c'est surtout n'essayez pas le jeu. Ne perdez pas de temps. Mais par contre, allez mettre la main sur l'OST. Parce que c'est ce morceau que j'ai sélectionné. Mais l'OST dans son ensemble est vraiment bien. C'est... vraiment pas de bol pour lui. Décidément, c'est Rob Miles. Je veux dire, dommage, mec.
Et tu crois que c'est Robert Miles, en fait ? C'est un pseudo. Désolé.
Alors, quand on disait que les adaptations, c'était souvent pas très bien, eh ben, en voilà un nouvel exemple.
Alors les enfants, aujourd'hui, une nouvelle leçon. Détourner de l'argent, c'est mal. Pourtant, chez Gearbox, on s'en cogne un peu. Une autre leçon les enfants. Mentir à ses clients, c'est pas très cool non plus. Pourtant, chez Gearbox, on s'en cogne le coquillard. Rappelez-vous, nous sommes en 2013, le jeu était attendu depuis un bon petit moment.
Dont autant par mois.
Ah mais par moi aussi, parce qu'on avait vu des trailers et c'était plutôt cool, et il y avait des sessions de gameplay qui avaient été montrées et qui étaient du flan absolu, puisqu'en fait Aliens Colonial Marines m'avait vendu du rêve, à toi aussi. Pendant longtemps, c'était l'un des points communs avec le Duke, c'est qu'il avait été torché sur la fin par Gearbox. Ils s'en foutent, ça je vous l'avais dit. Le jeu devait faire suite au film culte de James Cameron en nous plongeant dans une guerre sans merci contre les Xenomorphs. Alors imaginez un petit peu le délire. Et splatch ! Dès les premières minutes, nos espoirs se retrouvent détruits par un glaire d'acide nauséabond. Comme ça, en plein visage, ils nous crachent dessus, ils s'en foutent. En même temps, je pense que comme nous, finalement, les mecs de chez Gearbox ne devaient pas du tout savoir que le jeu était naze, puisqu'en fait, le jeu avait été sous-traité, sans donner de pognon, à mon avis, à une pauvre équipe de développement qui n'avait absolument rien demandé. Donc, la honte absolue. Et chez Sega, les mecs l'avaient mauvaise,
Ça, je peux vous le dire. Et heureusement que dans l'espace, on nous entend pas crier. Allez, on reste dans des franchises bâclées, maltraitées. Et c'est ma partie cinéma. Je pense que cette fois, vous l'aurez tous reconnu. Pas besoin de vous parler en long, en large et en travers des origines de cette musique, puisqu'on vient d'écouter du John Williams, donc déjà, respect. Et franchement, John, j'ai envie de te dire bravo, parce que au moins, toi, t'en avais quelque chose à foutre.
C'est ça.
Star Wars épisode 1. On sent que toi, tu avais envie de donner quelque chose aux personnes qui, en 1999, étaient là, religieusement installées, peut-être même... Toi, auditeur, tu étais allé en Angleterre pour... Non, en fait, c'est Rhône qui s'est déplacé ouais. Carrément.
Moi, je suis quand même allé en Angleterre pour voir le film quelques jours avant. Donc, bon, heureusement qu'on a fait un peu de tourisme à côté, quoi.
Ouais, tu voulais être déçu quelques jours avant. Mais encore que, à l'époque, rappelez-vous, la menace fantôme avait bonne presse. Certains trouvaient ça plutôt chouette, peut-être même avant-gardiste, je sais pas, ils étaient tous un petit peu foufou ou aveugle, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dès que j'ai vu l'épisode 1, waouh, t'as envie de dire tout ça pour ça, Georges, pourquoi tu t'es dit à un moment, alors déjà qu'on sentait que tu nous détestais, parce que t'avais changé les anciennes versions de tes films, et là, carrément, bah, tu nous balances des médicloriens, tu nous mets Jar Jar Binks, encore que je pense que les gens ont mis leur haine sur Jar Jar pour essayer de cacher le reste.
De pas penser au reste. Finalement,
ouais, parce que Jar Jar, le pauvre, entre guillemets, il a tout pris dans la tronche, mais il y avait tellement d'autres choses, qui n'allaient pas dans ce film-là, que au final, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne retiens que cette musique, éventuellement le combat, donc contre Dark Maul, avec donc la musique Duel of the Fate qui envoie le pâté. Voilà, moi je retiens que la musique de Star Wars épisode 1, c'était le premier épisode vers une chute abyssale dans la médiocrité, parce que moi-même les autres, je parle même pas du 2, le 2 était encore pire. Franchement, non, avec les vaches...
Je dirais match nul, dans le sens où j'ai revomi, quoi.
Ah, mais le 2 est pire, il y a des couleurs qui sortent, qui ont été créées spécialement pour... Bon, je pense l'épisode 2, tellement c'est immonde, et puis Hayden Christensen, et puis enfin bref, enfin moi je n'aime pas du tout la prélogie, je suis pas non plus un grand fan de l'épisode 7, mais bon, le débat est ailleurs, j'adore cette musique, et je pense qu'elle symbolise parfaitement cette émission, un très mauvais film, et une musique absolument épique et magnifique, enfin bref John, t'as essayé, mais bon, t'étais pas très bien accompagné.
Moi j'ajouterais quand même pour une fois là un très mauvais film mais un très bon jeu, parce que moi quand j'entends cette musique ça me fait surtout penser à Star Wars Racer, J'ai finalement beaucoup plus joué au jeu que je n'ai regardé le film. Et il y avait cette incroyable musique de John Williams qui, pour le coup, apportait beaucoup au jeu, quoi.
Ah, il est fort, ce John. Allez, on enfile son baggy, on met les lunettes de soleil, on est parti pour le hip-hop-hop-hop.
Vous avez probablement reconnu le célèbre thème de Toe Jam and Earl. Alors, le thème de la version Toe Jam and Earl 3, sorti sur Xbox en 2002. Alors, le premier jeu, c'était une espèce de délire, hein. Faut être clair, Creepers me l'avoue, il a jamais rien compris à ce jeu, mais je crois que personne, hein. C'est quand même un jeu où les ennemis, c'est des Pères Noël qui volent et des ménagères qui poussent leur caddie. Où on boit des bières pour rôter. Enfin, c'est une espèce de gros délire, mais qui avait une ambiance super fun, complètement folle, très décalée et surtout très funk, très hip hop. Donc c'était, moi j'adorais ce jeu. J'étais un gros.
On dirait un peu MTV des années 90, un peu dans ce genre-là, Baby C'est peut-être tout ça, non?
Ouais, il y a un peu de ça, exactement. Il y a un peu de ça. Donc c'est un jeu qui était très bien ancré dans son époque et en fait qui aurait peut-être dû y rester. Il y a eu un deuxième épisode sorti sur Mega Drive qui était déjà pas génial, mais alors le troisième sur Xbox, bon alors là c'est un jeu qui est tombé dans l'oubli dans un temps record, je sais même pas si beaucoup d'entre vous savent qu'il existe même.
Tu sais, ça fait partie des jeux où quand on l'annonce, on fait ouais, c'est trop bien, et puis quand ça sort, on fait
exactement,
on s'en fout complètement.
Ça a tout de la fausse bonne idée.
Alors ouais, c'est ça.
Moi je l'avais pris quand même. Probablement pas cher, hein, faut bien le reconnaître, parce qu'au début il y a un peu la nostalgie de revoir les deux extraterrestres tarés, et voilà, on attaque le jeu de façon un peu bienveillante, en plus il y a la 3D, peut-être que ça va être bien, peut-être que rien du tout, ouais, quel ennui, il n'y a pas d'idée, il se passe rien, on a l'impression quand on joue que les développeurs se sont obligés à faire le jeu, genre on les a menacés, on a pris leur famille en otage, je sais pas, mais on sent rien dans ce jeu, et sur un jeu qui est basé sur du fun, c'est quand même un petit problème. Alors heureusement, il y a quand même la musique qui demeure, qui elle est hyper funky, hyper dynamique, tous les thèmes du jeu sont vraiment très très bons, avec des variations suivant les niveaux. Donc ça c'est un vrai bonheur, ça fait le job, c'est Burke Trishman qui l'a composé, je suis assez fier de moi de ne pas avoir accroché son nom, et il faut bien reconnaître que cette personne, on le retrouve sur pas grand chose d'autre, mais en tout cas, sur Toe Jam and Earl 3, il livre une belle partition, et c'est déjà ça de prix, puisque finalement c'est la seule chose qu'il y a à retenir de ce retour raté. On va continuer sur ce qu'on pourrait appeler la suite de trop, avec un jeu qui avait une excellente réputation jusqu'à cet épisode.
We'll be right back.
Alors on vient d'écouter le thème principal du jeu Gothic 4 Arcana, sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Donc la série Gothic, hein, ça vient du PC, c'est des jeux de rôle qui sont assez complexes, plutôt riches, et qui ont, ma foi, comme je disais, une bonne réputation. Par contre, cet épisode, qui était clairement destiné aux consoles, alors est d'un ennui total. C'est pas tellement que le jeu est moche, mais il est pas beau. C'est pas qu'il soit pas maniable, mais il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Ni qu'il y ait plein de bugs, enfin bon, il y en a quand même. Non, c'est juste que Gothic 4 Arcana, ça pourrait être un synonyme de banalité. Tout est banal dans ce jeu. À tel point que, on l'avait déjà dit pour un autre titre avant, on a l'impression d'avoir joué au jeu 10 fois avant même d'avoir commencé. Donc autant dire qu'on ne va pas très loin dans le jeu, c'est peut-être pour ça que c'est le thème principal que je vous ai passé, parce que celui-là je l'ai entendu. Mais la musique, elle, elle est bien quoi. Dans l'ensemble, elle sort son épingle du jeu. Elle est composée par Dina Médion, qui est un regroupement de compositeurs teutons. Et finalement, elle livre exactement ce qu'on attend d'un jeu, et même ce qu'on aurait aimé trouver dans le jeu. Eh ben, de l'épique, bordel! On va maintenant faire un petit saut plus proche de nous, en 2016, pour un retour qui aurait peut-être pu se dispenser de se faire.
Psygnosis signe un classique sur Amiga qui marquera les esprits, principalement par son ambiance, ses graphismes hallucinants et sa bande-son. 2016, Shadow of the Beast est de retour dans un remake qui débarque 3 ans après son annonce, rappelez-vous, hein, par Sony, alors je sais plus si c'était à l'E3 ou une Gamescom, c'est quelque chose de ce goût-là. Donc on avait commencé à se réjouir parce que ça avait l'air plutôt sympatoche, ça avait l'air de lorgner un petit peu vers du God of War. Mais malheureusement, Voilà, le jeu est sorti, il aura beaucoup moins marqué les esprits que le titre d'origine. Et pourtant, bah, comme Duke Nukem, je l'ai acheté, hey. Je suis un bouffon. Bouffon, montrez pas du doigt. C'est moi, super bouffon.
Super saucisse.
Super saucisse. Bon, il était pas très cher. Bon, j'essaie de me justifier, mais ce n'est même pas la peine. Alors pourtant, le jeu parvient à faire illusion, on va dire, dans les premières minutes. Mais l'ensemble, malheureusement, s'écroule très très vite. L'ennui, la routine s'installe. On se demande pourquoi on continue à avancer. Et à aucun moment, on essaye de nous surprendre pour nous accrocher. Alors le problème d'un titre comme ça, c'est que bah à l'époque, comme je l'ai dit, le jeu pouvait marquer les esprits parce qu'il était super beau, techniquement en avance, etc. Mais on va dire qu'en 2016, c'est un petit peu compliqué de n'exister que par ça, parce que vous avez une montagne de jeux qui sont des démos techniques surprenantes, ce que vous voulez. Donc quand t'as un gameplay un peu pourri qui évolue pas, quand t'as un perso un peu pourrave, honnêtement, faut l'avouer. Il y a un design assez particulier. Alors même si il y a quelques, on va dire, tours de force par-ci par-là, au niveau, il y a quelques tableaux assez sympas. Il y a le côté parfois un petit peu, comment dire, immense dans le décor, parce qu'on est sur des plans, donc c'est de la 2D, on va dire de la 2,5D, comme on aime bien dire, avec donc tout en 3D, mais sur un plan fixe. Donc voilà, il y a un système de combat au début où on se dit, tiens, c'est plutôt rigolo, ça peut donner quelque chose de sympa, et finalement c'est juste deux boutons gauche-droite à essayer d'aligner, on va dire, dans le tempo pour enchaîner les boss. Voilà, c'est loin d'être foufou, il y a rien qui ressort particulièrement, et donc je me suis quand même vite ennuyé, mais puisqu'on est en train de parler de mauvais jeux avec de la bonne musique, vous l'aurez peut-être compris au bout d'un moment, et ben c'est composé par Ian Livingstone, et il y a vraiment une ambiance assez pesante qui s'installe, c'est assez intéressant, il y a un mélange de musique symphonique et électronique qui pour moi vaut le détour. La BO peut vraiment s'écouter même toute seule comme ça pour installer une ambiance quand vous êtes en train de bosser ou faire quelque chose à côté, enfin bref. En tout cas, il y aura sûrement mieux à faire que de jouer à ce jeu-là en écoutant la musique. Donc voilà, honnêtement, avec du recul, on est presque au niveau de la catastrophe. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est qu'on sent qu'il y a un making of qui était, parce que bien sûr, j'ai pris la version, tu sais, la version où il y a des trucs en plus, un peu plus cher.
Ce serait dommage, ouais. Super saucisse.
C'est moi, Super Saucisse. Et bon, ils offraient la BO, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Et donc on sent quand même que les mecs étaient un petit peu impliqués, qu'ils y croyaient, mais je pense qu'ils se sont un petit peu, au fur et à mesure qu'ils ont développé le jeu, parce que ça devait être beaucoup plus gros, je pense, à la base, qu'il y avait des grosses annonces, et c'est sorti finalement en support digital, c'est plus en boîte, etc. Donc voilà, on sent qu'ils sont un peu embourbés, qu'il y a peut-être eu un manque de moyens ou de soutien, enfin bref, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, le jeu, malgré un squelette qui au départ avait l'air sympa et finalement assez fragile, ça s'écroule quand même assez rapidement, et bon, écoutez la BO, vous verrez, c'est très très cool. Allez, on va passer dans un autre jeu qui a rempli les bacs à soldes. Et c'est encore une fois sur Xbox 360 et PS3. We'll be right back.
Alors, The First Templar, sorti en 2011, est un bon vieux beat'em all dans lequel on peut jouer un chevalier, et comme c'est pas fréquent, eh ben, je me suis dit, c'est cool, malgré la laideur de la jaquette, je me suis laissé tenter.
Alors,
je me
suis c'est toi!
Alors, je me suis aussi sans doute laissé tenter parce que The Last Templar, on pouvait le trouver à pas cher partout. Dans tous les magasins du monde, enfin, je veux dire, même si t'allais à la boucherie, t'avais The First Templar qui était en solde dans un bac. Je veux dire, personne n'en voulait, je sais pas combien ils en ont pressé, mais à force, il y avait une espèce de pression qui disait « Allez, allez, vas-y, je coûte 5 balles, bordel, tu peux bien m'acheter. »
Attendez, quoi. Monsieur, vous avez acheté 3 merguez, vous prenez bien un First Templar avec.
J'ai un petit First Templar.
Non, laissez-moi tranquille.
Alors, First Templar, en fait, c'est un de ces jeux dans lequel, ben, il n'y a rien à sauver, quoi. Hein. Vous commencez à piger le principe maintenant. Donc, maniabilité discutable, totalement moyen dans tout, ça... En fait, dès qu'on commence à jouer, on réalise à peu près au bout de 28 secondes que ouais, c'était encore 5 balles de trop, quoi. Même si on s'ennuie, même, j'ai envie de dire, si on a que 5 balles, ben, faut mieux les garder, quoi. Faut mieux les jeter par terre. Ou alors, même si c'est un petit billet de 5, comme ça, je pense qu'on s'amuse plus avec son billet, je sais pas, en lançant en l'air, en... Plutôt qu'avec The First Templar, c'est quand même, c'est quand même bon, là, une belle daubasse, hein, y a pas de problème. Mais alors figurez-vous que non seulement c'est une daubasse, mais que c'est une daubasse qui a quand même eu une version spéciale qui est sortie. Alors, bon, je ne suis pas une super saucisse.
Celle-là était bien, en fait.
Et dans la version spéciale du jeu, donc celle-là, je sais pas, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui l'a acheté un jour, mais... Il y avait l'OST qui était offerte. Et finalement, bah, c'était l'OST qui faisait le jeu parce que elle est pas mal du tout. Ce sont des morceaux qui vont aller mixer un petit peu les origines diverses et variées. Alors surtout en allant chercher un peu des musiques orientales qu'on va intégrer dans des morceaux symphoniques. Et ça marche plutôt bien. Le son est plutôt bon. Donc à la limite, si vous croisez le jeu, faut mieux acheter la version spéciale. Vous pouvez jeter comme ça le DVD du jeu, ça n'a aucune importance. Et juste écouter le disque qui est plutôt bien. Donc c'est l'œuvre de Svetomir Ristov. Putain, je prends des risques aujourd'hui.
Ça, c'est la réaction que t'as eue quand t'as lancé le jeu.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'arrive, Renaud Svetomir?
D'ailleurs, c'est vrai que quand on y pense maintenant, quand on voit le nom du compositeur, qui est peut-être quelqu'un de très talentueux, mais ça fait vraiment penser à ces films qu'on sous-traite en tournage en Roumanie.
Ouais, là où il y a Nicolas Cage, tu
ouais,
sais.
C'est ça, où il y a pas mal de noms comme ça. En attendant, bon, ce monsieur, il a œuvré dans plusieurs OST, hein, et en particulier sur la série Tropico. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Déjà, je crois que ça faisait peut-être des années que personne n'avait plus parlé de The First Templar. Donc fuyez, pauvre fou, n'achetez pas ce jeu. Bon, au moins The First Templar, il a eu le bon goût d'être confidentiel dès sa sortie, finalement. Là, on va passer sur un jeu qui, par contre, lui, a bénéficié quand même de pas mal de pubs et pas mal de mises en avant, et pour un résultat, voilà, quoi.
2011, on est encore sur Xbox 360 et PS3. Décidément, ces consoles n'ont pas connu que des grands jeux, et c'est encore une fois la preuve. Gros budget, écrit par John Milius, quoi. Quand Monsieur même. Conan, Monsieur l'Aube Rouge. Alors là, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fous là, John? T'avais un truc à payer, peut-être. Voilà, ça peut expliquer certaines choses. Et il y avait en plus une promotion, mais de dingo.
Une très belle derrière ce film. Plus, hein. La jaquette est très belle, par contre.
Ah, mais ça vendait du rêve. Hein. T'avais, en plus, il le mettait vraiment bien en avant. Écrit par John Milius, voilà, le mec qui vous a donné Conan, etc. Enfin, voilà. John Milius, surtout. Bon, je pense que c'est surtout l'Aube Rouge hein, qui a poussé les créateurs du jeu à appeler John Milius. Parce que voilà, l'Aube Rouge, c'est aussi une attaque des États-Unis. Alors, c'était à l'époque, c'était par les Russes. Bah, ouais, si je ne dis pas de conneries, hein, forcément. Mmh. Et là, puisqu'on est plus dans le coréen, c'est un peu plus eux maintenant qui sont méchants, hein. Et ben, donc, ils ont appelé John Milius, il a juste remplacé du coup le pays.
C'est pas plus
chier. Il a pris le chèque, il a dit, ok les gars, bah, finalement c'est la Corée. Et là, les mecs ont dit, boum, on a notre jeu, et c'est parti. Donc, il y a eu une campagne promotionnelle de dingue, et quand le jeu est sorti, ben, ça a commencé à sentir un peu mauvais. Et là, splatch! Le jeu s'est étalé comme un bovin bourré à la bière. Alors, il y avait plein de problèmes dans le jeu, il y avait des bugs à foison, c'était ultra court. Si vous preniez la version d'occasion, vous pouviez pas finir complètement le jeu. Enfin, c'était catastrophique, franchement. Et pourtant, il y avait quand même 2-3 idées plutôt sympas. Le début faisait un petit peu illusion. Mais franchement, déjà en 2011, je sais pas pour toi, Rune, mais j'en avais déjà marre de toutes les copies de Call of Duty
qui sortaient.
Et là, t'as THQ, alors Jack, qui est quand même la boîte qui, à part faire des jeux de catch, faisait pas grand-chose à l'époque, qui commençait à dire, écoutez les mecs, nous on a une paire grosse comme ça. On va faire des gros jeux de ouf, donc il y a eu Darksiders, qui était pas mal. Donc ils ont réussi à faire un truc sympa. Et là on dit, les mecs, Call of Duty, on va vous le faire oublier tout de suite, parce qu'on a John Milius, quoi, tu vois. Ouais. À un moment, hein, on arrive comme ça, pépouze, et t'as tous les poncifs que t'as déjà vus dans les FPS, mais en pire, en assez moche, c'est stupide, mais de chez stupide. Donc au moins, Rogue Warrior m'avait fait rire. Par contre, Homefront m'avait juste énervé, je suis même pas allé au bout, pourtant il semblerait qu'il soit super court, donc voilà. Alors oui, Homefront est tout naze, mais sa BO est pas mal du tout, hein, c'est et vrai. C'est composé par Matthew Harwood. Alors, c'est pas non plus follement original, c'est assez guerrier, il y a un petit côté Hans Zimmer comme ça qui s'installe, ouais, c'est pas foufou.
On retrouve mais les rythmes un petit peu habituels qu'on a ouais, dans voilà. Beaucoup de musique guerrière, hein, ça fait penser à pas mal de choses. Ça m'a fait penser un peu à Predator aussi sur le.
Ouais, voilà, tu base, sens, il y a vraiment un côté guerrier, il y a un côté on est là pour se battre et pour défendre notre pays, quoi, tu vois, le drapeau américain, hein. On n'est pas là pour déconner. Qu'est-ce que tu fous là, coréen? Tu vas dégager.
Ça, c'est du scénar, bordel.
Voilà, exactement. On a un gros scénar de ouf. On est des rebelles. On va pas vous laisser prendre notre beau pays. Et bon, le mec est assez talentueux quand même. Il avait bossé, entre autres, avant d'aller chez THQ, chez Behemoth. Et aussi chez Gaijin Games. Ouais, il a fait quelques BO plutôt sympathiques. Et bah forcément, c'est tout ce qu'on va retenir de ce Homefront. Et la suite est presque pire, bizarrement. Et ce qui est assez triste quand même dans la suite, c'est que par contre les pauvres là, ils ont eu des gros problèmes de développement. Il y a eu, c'était repris par Crytek, parce que THQ donc a fermé, les droits étaient rachetés, Crytek les a rachetés, mais Crytek c'est quand même une sacrée bande de bâtards, ce qui paye pas leurs employés. Et du coup ils ont quasiment coulé en même temps que le jeu. Il y a même une lettre, alors pour ceux qui ont terminé le jeu, il y a même une lettre du directeur du jeu qui s'excuse presque de la qualité du jeu, qui est sorti complètement pété, buggé de partout. Enfin bref, c'est assez triste. Voilà, Homefront, c'est aussi une histoire d'homme avant tout. Et c'est une histoire assez triste, bouleversante. Sortez les mouchoirs. Allez, on reste un petit peu dans la boursouflure. On passe sur une exclue PlayStation 4.
The Order. Le jeu qui te donne presque envie de porter une belle moustache. Mais, attention, une moustache en full HD, hein, on n'est pas là pour déconner. C'est qu'ils étaient fiers, les saligots, avec leur jeu qui devait être à la fois une expérience intense et un film foufou, techniquement super dingue. Et bien sûr, pour vraiment appuyer sur le côté cinéma, parce qu'on aime le cinéma, on a tous un petit peu jaloux du cinéma dans le jeu vidéo, on aimerait bien faire des expériences hyper immersives et tout le tralala. Donc du coup, on a une idée de fou, on met des bandes noires.
Ouais.
Tu sais, en haut et en bas, pour faire comme ça des belles bandes noires, un peu cinéma, comme dans ton petit écran de télévision se transformant en film.
Comme sur Saturne.
Mais il y a un dicton qui dit, quand tu n'arrives ni à faire une expérience intense, ni un film foufou, bah c'est un peu gênant, et tu finis en solde avec les copains.
Avec The First Templar.
Et pourtant, ils avaient essayé de donner un peu l'illusion, il y avait matière, et très honnêtement, on sent que les développeurs y croyaient. Hein, ils étaient vraiment à fond dedans, ça avait été énormément mis en avant par Sony, à l'époque où la PlayStation 4 commençait un petit peu à sortir. Voilà, The Order, c'était la claque.
Et puis, ça avait Order. Une jolie identité visuelle quand même, il y avait ça qu'on peut sauver.
Alors justement, j'ai même envie de nuancer même ce passage-là. Mais tu veux faire un film, bordel. Tu prends un bon scénariste. Tu fais pas un remake déguisé d'Underworld. Sérieux. Ce jeu, c'est Underworld avec des moustaches et des phases où tu te caches derrière un mur pour tirer sur les bestioles, quoi. Ils arrivent même à répéter une toute petite scène sympa, la transformation en garou. Et bah, tu l'as trois fois. Et trois fois la même. La fin est nulle, il y a même pas de fin d'ailleurs. La fin est complètement bâclée parce qu'ils étaient encore une fois partis pour faire, tu sais, une trilogie.
Ah bah oui.
Parce qu'on ne fait pas un jeu, on fait une trilogie, Ron.
Une trilogie de 9 heures sur trois jeux alors. Parce que...
Ah ouais, parce que j'allais dire 9 heures, c'est pas sur le premier. Hein.
Ouais.
C'est, parce que le jeu, voilà, moi je l'ai terminé en 4 heures. J'avais un petit débat avec un pote qui l'a fini, qui a trouvé ça plutôt sympa. Enfin, moi je n'aime pas du tout ce jeu. Je trouve qu'il se la raconte. Il y a tous les... En fait, Gears of War 1 le faisait déjà, mais en mieux, à l'époque, donc sur Xbox 360. Voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui aiment The Order, moi je trouve que ça se la raconte, c'est ni un bon film, c'est pas un bon jeu. Alors il y a des... Forcément, c'est joli, c'est très joli, mais je trouve que même l'univers, tu vois, c'est tout ce que tu as vu dans le... Comment on appelle ça déjà,
Steampunk. Merde.
Voilà, c'est tout ce qu'on a vu dans le steampunk, tu l'as déjà vu un milliard de fois, l'histoire du combat entre les loups-garous, les vampires, les machins, tu l'as déjà vu 3 milliards de fois, en mieux. C'est au moins apporte quelque chose. Moi, la seule chose j'aimerais sauver.
T'es quand même dur. Moi, je trouve que l'identité visuelle steampunk est plutôt réussie, mais je suis plus dur que toi sur tout le reste. Celui qui dit qu'il a aimé The Order, il est forcément de mauvaise foi ou il a jamais joué à un jeu vidéo.
Non, mais on en a un moment où dans ce jeu-là, tout est, ils veulent tellement tout maîtriser que même des passages où t'as un chapitre entier, un chapitre entier où tu marches sur 100 mètres, c'est un chapitre. Tu marches sur 100 mètres, parce que tu ne peux même pas courir.
Je me rappelle.
Ouais, tu regardes des pommes, tu retournes les pommes, tu peux pas interagir plus que ça, tu ramasses des pommes, tu ramasses des feuilles. Et je veux dire, ils en sont même à maîtriser tes pas. C'est-à-dire que tu ne peux même pas courir dans certains passages parce qu'ils veulent t'obliger à gérer un petit peu le temps, etc. Mais dans ce cas, fais une putain de cinématique. Fait que de la cinématique, c'est juste pour nous faire appuyer sur carré, rond, ouvrir des portes, enfin c'est complètement stupide. Bref, j'ai l'air de cracher mon venin sur The Order.
Ça fait du bien, quand
1886, ça fait du bien, mais les moustaches sont belles. Ah, j'ai oublié de dire la seule qualité du jeu. Je trouve que les personnages sont plutôt charismatiques. Je trouve que le personnage principal passe plutôt bien. Voilà, je trouve qu'ils sont assez bien caractérisés au début, même si après ça s'embourbe complètement, mais les persos, je les trouve plutôt agréables, voilà, et ça change un petit peu de, tu sais, des chauves que tu vois partout. Là, au moins, il y a une moustache, voilà, la moustache, ça apporte la classe, et puis c'est tout. Et donc, on a aussi la musique de Jason Graves, que vous avez écouté, et qui est absolument magnifique, même si on est sur Jason Graves en terrain un petit peu connu, puisque le mec est très très bon, il a fait la musique de Dead Space, de Tomb Raider, donc le mec est très doué. C'est pas ce qu'il y a de plus surprenant, parce qu'il y a un côté un peu académique qui pourrait peut-être même, c'est très très propre. C'est exactement ça. Un peu comme le jeu, hein, qui sort pas des clous, mais ça accompagne bien le jeu, c'est hyper bien fichu, c'est bien produit, il y a un son qui passe très très bien, et on ne peut que être agréablement surpris quand on voit la qualité du reste, en gros. Et on retourne encore sur Xbox 360 et PlayStation 3. Et on retourne dans la fantasy. Thank you.
Alors, sorti en 2012, Le Royaume d'Amalur, Amalur Kingdom, est une sorte d'échec complètement inexplicable. Donc, à ce moment-là, c'est Electronic Arts qui avait mis le paquet. C'était à l'époque où ils essayaient de faire des nouvelles licences aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque où ça existait, les nouvelles licences, c'était bien. Sauf que des fois, ça marchait pas. Et là, ils avaient mis le paquet pour se placer sur un style de jeu où jusque-là, ils n'étaient pas présents. C'est les jeux de rôle action, un petit peu à la Fable, si vous voulez, ou Divinity. Enfin, il y a plusieurs clients sur ce créneau. Et pas des petits clients, en plus. Et ils avaient réuni un paquet de talents. Ils ont mis pas mal de pognon là-dedans. Ils ont payé des gens très bien. Et les gens, ils ont essayé de bien travailler. Et pourtant, rien à faire. On a eu ce qui ressemble fortement à une espèce de, je sais pas, d'échec industriel, quoi. C'est les choses qui arrivent de temps en temps. Alors, quand le jeu est sorti, il a reçu de très bonnes notes à sa sortie. Si vous cherchez, vous allez voir, aussi, il a l'air bien finalement. Et c'est vrai qu'il a plutôt fière allure ce jeu. D'ailleurs, moi, je l'ai acheté. Et je crois pas que c'est dans un bac à soldes. Hein. Je l'ai acheté à sa sortie. J'en avais pas mal envie. C'est beau, c'est joli, ça joue bien. Il y a même des idées, mais ça ne marche pas. C'est tout bête, hein. Ce qui lui manque à ce jeu, c'est une âme, tout bêtement. C'est une personnalité. Et en fait, on sent quand on joue qu'on est sur un collage de talents plutôt que sur leur addition. Indépendamment les uns des autres, tous les éléments sont là. Tout a l'air d'être bien. Mais quand on met tout ensemble, bah, c'est tout bête. Ça ne fonctionne pas. Et à la fin, ça fait un jeu bah, qui est vraiment pas très bon, quoi. Ce qui semble un petit peu fou. Alors heureusement, il y a la musique qui, elle, peut s'écouter toute seule, et elle est l'œuvre de Grant Kirkhope. Si ça ne vous dit rien, bah écoutez le dernier podcast qu'on a fait sur Rare, puisque c'est l'homme qui est quand même derrière Banjo, cette merveilleuse BO. Donc on peut se dire que ça va être très chouette, mais même là, l'OST se révèle finalement assez inégale. Mais bon, j'aime bien le morceau que j'ai passé, alors voilà, ça méritait quand même d'être mis, même si je dois dire que notre ami Grant a probablement pas mal écouté la musique de Danny Elfman faite pour le Spider-Man de Sam Raimi, ce que vous avez probablement noté que les similitudes sont quand même fortement troublantes.
Et rappelez-vous que un Spider-Man de Raimi, ça vaut 10 000 autres Spider-Man de Marvel. Et puis c'est tout!
On quitte les forêts enchantées et on retourne dans un monde futuriste avec notre exosquelette qui fait de nous un être invincible. On vient d'entendre un morceau intitulé Memories tiré de Crysis 3 sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC probablement. Alors traditionnellement, hein, la série Crysis elle semble avoir été inventée pour vendre des cartes graphiques, pour vendre les moteurs de chez Crytek. Bon, j'avoue, j'ai jamais trop accroché pour à cette série et Je veux dire que si j'ai joué au troisième épisode, c'est avant tout parce que j'étais testeur de jeu à ce moment-là. Et donc c'est ce qui fait que j'ai pas pu couper à ce troisième épisode, et autant dire que ça n'a pas été le test le plus agréable que j'ai fait de ma vie. Alors, si le jeu a été correctement conçu en multi, l'expérience en solo, c'est juste une catastrophe. On se contente de déambuler sur les maps du multi, en fait, hein, donc qui ressemblent à des maps de multijoueurs. Autant vous dire qu'en identité et en level design, c'est d'une pauvreté absolument affligeante. Le gameplay est complètement nul. On est avec un exosquelette qui, dès qu'on commence à le manipuler, fait vraiment de nous quelqu'un d'invincible. Ça donne l'impression de jouer à un jeu qui est cheaté. C'est assez étrange. Mais enfin, au moins, ça permet d'avancer plus vite jusqu'à la fin et de se débarrasser du titre. C'est déjà ça de pris. Surtout moi qui suis pas très fort sur les FPS, j'étais finalement content de voir qu'il y avait cette facilité qui était offerte.
C'était à l'époque où il y avait des arcs partout.
Oui, c'est ça.
Ils lui ont mis un arc. Ouais. Mais en fait, ce jeu, c'est une énigme parce que autant le 2, il y avait pas mal de temps qui est passé entre le premier et le deuxième, et le 3 d'un seul coup, je crois qu'il est sorti assez rapidement. On a vu de, alors comme d'hab, ils mettaient au taquet leur moteur physique machin, et Crytek, moi je honnêtement, Crysis 1, en plus j'avais repris du coup, parce que c'est un peu, tu dis Crysis 1, je crois que le premier Far Cry c'était Crytek aussi.
Je sais plus.
Je crois que le premier Far Cry c'était Crytek, et là autant j'aime bien le côté paradisiaque et tout, autant Crysis, enfin surtout, enfin même le 2 quand il est sorti qui avait eu d'assez bonnes critiques, enfin moi ça me gave. Ça a pas d'âme, c'est froid, c'est tout pour la gueule quoi. C'est regarder comme je suis beau machin, et on va dire tu fais waouh deux fois. Après c'est quand même que ça soit le 2 ou le 3, encore dans le 3 ils ont mis un petit peu de verdure parce que la nature a repris ses droits.
Ouais.
Et dans le 2 mais c'était gris, marronasse, alors une texture grise, OK, c'est chouette si elle est belle, mais ça reste une vieille texture quoi. Donc si elle est grise, on s'en fout.
C'est un beau gris, non monsieur.
C'est un, hein. Oh, quel beau gris en HD, c'est magnifique. Donc ouais, Crysis ça m'a toujours saoulé, et le 3, je crois que j'ai joué à une démo vite fait comme ça où j'ai fait un petit peu le jeu, mais ça m'a saoulé au bout de 20 minutes pour ce que tu viens de dire, c'est que les maps sont nulles. T'es super puissant avec ton costume là, donc du coup t'es là, tu mets 2-3 coups de latte pour rigoler, pour les faire dégager contre une bagnole, mais sorti de ça, Crytek c'est quand même des nazes quoi.
Ouais, bah y a que Rise, hein, c'est ce qu'on disait. Enfin,
voilà,
moi j'ai bien aimé Rise, mais c'est limite une anomalie dans la carrière de Crytek. Bon, en même temps, Crytek maintenant c'est fini. Ils vont nous laisser tranquille. Alors sur ce Crysis 3, il y a quand même une chose qui est à sauver, hein, bien sûr, puisque c'est le thème du jour, c'est les musiques, hein, qui sont de Borislav Slavov et Peter Antovsky.
Bravo.
Putain, voilà, moi je fais dans les compositeurs de l'Est, moi aujourd'hui.
Ah hein. Bravo, t'as raison.
Alors le premier a œuvré sur une poignée de jeux, hein, le deuxième, j'ai l'impression qu'il n'a travaillé que sur Crysis 3. Cela étant, l'ensemble de l'OST est hautement fréquentable. Elle est d'une très bonne qualité, avec différents styles qui se fréquentent. Alors évidemment, l'ensemble est quand même très axé sur une OST très guerrière, finalement assez classique, mais de bonne facture, avec tout de même quelques petites fulgurances dans d'autres styles, comme le morceau qu'on vient d'entendre, qui... je trouve que c'est une belle réussite, ça noue un peu la gorge, il y a de l'émotion qui passe, et quand on l'entend, on peut penser que ça se rapporte à un jeu qui véhicule justement une histoire, des émotions, alors pas du tout, hein. Donc il faut vraiment se contenter de l'OST, il faut mieux imaginer le jeu qu'y jouer, quoi. Bon, on se rapproche de la fin, et pour bien terminer, quoi de mieux que ce qui est sans doute la déception de 2016.
aurait dû s'en douter, Ron. Rappelle-toi, le 3 2016. Rien de jouable, malgré un stand immense et immersif.
Et de la fanfare qui passait dans les allées du salon.
Ah, mais ils avaient mis le paquet. Franchement, ils avaient mis le paquet, donc on s'est dit ça va être la folie, mais non, on a vu une vidéo sur un écran de cinéma, voilà. Rien de jouable non plus à la Gamescom, malgré un stand assez gros et un peu immersif aussi. Paris Games Week, on se dit on se rapproche de la sortie. Et là encore, rien de jouable, malgré... Bon allez, j'arrête. Je l'attendais ce Mafia 3. Les vidéos étaient sympas, il y avait des idées, un personnage qui était assez fort. Il y avait quelques thèmes un petit peu chauds qui avaient l'air évoqués sur la ségrégation, sur le racisme, sur toutes ces choses-là qui touchent un petit peu dans les États-Unis de ces années-là. Et splatch ! Dans la tronche, une cruelle déception et une baisse de prix une semaine après la sortie.
Et voilà.
C'est, voilà, Mafia 3, c'est un peu un scandale. Manipulation, précommande, voilà, précommandez notre jeu. Regardez les vidéos, le jeu va être formidable, c'est obligé. Le jeu sera formidable. Et on était convaincus, parce que moi j'étais vraiment chaud patate. J'avais bien aimé le 1, j'avais bien aimé le 2, même s'il était un petit peu plus rétréci, mais avec une bonne histoire et des bons personnages. Et donc je me dis, le 3, ça a l'air chouette, j'ai envie d'y croire. Et là, le jeu sort, et bon Dieu, comment c'est fait rouler, quoi. Mais il est dégueulasse. Techniquement, il y a des problèmes d'éclairage, il y a des voitures qui s'envolent, il y a des bugs dans tous les sens. Il y a que les cinématiques qui sont chouettes, un minimum travaillé, avec effectivement le personnage principal qui vraiment, vraiment est très bon, quoi. Il y a une petite finesse d'écriture, il y a quand même, on voit qu'il y a une évolution dans le perso, donc il y a des bonnes choses. Mais dès que tu joues, eh ben, tu tapes des quais de FedEx, tu vas à gauche, à droite, et surtout, mais c'est fini à la pisse. Voilà.
C'est fini à la pisse de Duke Nukem.
Voilà, on va dire, voilà, c'est comme le début, il manque plus que le début de Duke Nukem où on nous pisse au visage, et voilà, quoi, c'est un véritable scandale, et ça montre encore une fois que, ne précommandez pas vos jeux. Ça va être la conclusion de ce podcast, c'est ne précommandez pas les jeux parce que ça les pousse entre guillemets à continuer à faire ça, c'est-à-dire à nous montrer uniquement des vidéos, à nous mettre des packs de merde avec des petits flingues en plus si tu précommandes le jeu, patati patata. Mais c'est un peu comme les films quand on les montre pas à la presse, tu sais, où ils sortent un petit peu en catimini. Ouais. Sauf que là ils mettaient le paquet au niveau de la com. C'était le jeu de la fin d'année, c'était vraiment le gros titre qui avait rien à côté qui devait normalement se mettre en travers de sa route. Et patatras, quoi. C'est quand on a vu les premières vidéos de vrai gameplay par les journalistes qui, du coup, maintenant, comme ils peuvent pas sortir le jeu dans de bonnes conditions, enfin, les critiques dans de bonnes conditions, ils commencent à faire des streams. Et là, mais tu tombes devant la tronche du jeu. Tu dis, mais non, c'est la version PS3. Eh ben non. C'est la version PS4, c'est la version Xbox One, et le jeu est vraiment dégueu, et ça part dans tous les sens, et vraiment le coup des voitures qui volent, les bateaux qui s'envolent, enfin, c'est bourré de bugs. C'est infâme, infâme.
Tu l'avais fait, celui-là?
Non.
Oh, bah tu viens de perdre 5 points sur ton score de super saucisse.
Non, non. Là, cette fois, j'ai vraiment attendu parce que les premiers échos étaient pas bons. Et du coup, là, j'ai pu y jouer grâce à un pote à moi qui, par contre, lui, a joué la super saucisse. Et parfois, il vaut mieux être accompagné d'une super saucisse que d'être la saucisse de l'histoire.
C'est très pratique d'avoir une super saucisse, quand même.
C'est la morale aussi de ce podcast. Ne soyez pas une mauvaise saucisse. Par contre, il faut en fréquenter une. Voilà, c'est comme ça. Bon, par contre, la musique, elle est cool. Donc, et là, au niveau ambiance, voilà, au niveau des États-Unis, un peu de ces années-là, c'est la musique New Bordeaux composée par Jesse Harlin et Jim Bonnet. Et la tracklist même, justement, le choix de musique, c'est un peu la force des GTA-like, généralement, c'est d'avoir des bonnes radios, des bonnes tracklists. Donc là, c'est un petit peu le cas. Et même les musiques vraiment faites pour le jeu sont exceptionnelles. Il y a une ambiance vraiment qui se dégage de ce titre-là. Enfin, c'est très très bon et... t'as presque envie de te dire, des fois c'est agréable de rouler pour écouter la musique, mais tu dis bah autant le faire en vrai, en vrai chez toi. Mais il y a des jeux comme ça où tu te plais à rouler tranquillement, à écouter juste la musique, à apprécier les décors, et malheureusement bah là les décors dans ce cadre-là bah c'est pas la joie. Donc Mafia 3, grosse déception. Encore une fois un jeu qui Day One a le droit à un patch pour pouvoir y jouer tranquillement de 20 gigas, mais encore après le patch c'est quand même immonde. Mais la musique est chouette. Encore une fois, en fait, ce qui est dommage, et pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là, Ron, c'est qu'il y a quand même des vrais talents qui se dégagent, même dans un gros tas de merde.
parfois, il faut fouiller un petit peu, on va trouver quand même des choses qui sont très très bonnes.
Il y a une rose là... qui pousse sur le fumier.
Voilà, exactement. Parfois, il y a la petite rose qui pousse sur le fumier. Mais ce qui est très triste, c'est qu'on sent parfois une volonté de bien faire. Et malheureusement, bah là, il y a tout qui s'écroule d'un seul coup. Et tu te dis, des fois, on est un peu méchant. Tu sais, tu te dis, on est un peu méchant, on tacle les jeux, on leur fait du mal, on critique les gens qui ont fait les jeux-là. Et des fois, je peux comprendre que certains le prennent mal, forcément, parce qu'ils ont parfois bossé des années sur des titres comme ça. Mais voilà, on voit encore que, grâce aux musiques de jeux, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent sur les jeux, des gens qui ont du talent, et parfois, ça donne quand même de la merde.
Voilà, c'en est terminé pour notre sélection du jour. Alors écoutez, bon, on s'est un petit peu amusé aujourd'hui avec ce thème, faut bien le reconnaître. Mais on s'est quand même dit que c'était aussi une façon un petit peu différente de découvrir des musiques, et surtout des musiques qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre, parce qu'elles ne soutiennent pas des titres qui restent dans les mémoires des classiques. Alors c'est rien de le dire dans ce qu'on a présenté. Il y a aussi de la belle musique dans les bacs à soldes, ça peut aussi être une morale de ce podcast. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusé avec nous. En tout cas, je sais pas toi Creepers, mais moi ça m'a bien amusé de préparer cette émission et de l'enregistrer. Peut-être que ça va aussi éveiller votre curiosité. Quand vous avez un jeu de merde et que vous vous dites « je me suis fait escroquer », tendez l'oreille, il y a peut-être quelque chose à sauver de ce côté-là.
Voilà, il faut se dire « ok, j'ai dépensé 50 balles, mais la musique est quand même pas mal, mec !» Quand t'as un pote qui vient et qui dit « mais dis donc, t'as acheté Umbrella Corpse ?» Oui, c'est vrai, j'ai acheté Umbrella Corpse, la musique est bien au moins. Eh ben non.
Même pas.
même pas. Et là aussi, j'ai pris le collector. mais bon, voilà, c'est pas mon histoire à moi. Mais voilà, il y a des choses à sauver parfois dans les musiques de jeux, même bien pourries. On l'a dit. On espère que vous êtes amusés autant que nous, parce que moi, je me suis éclaté. Ouais. Je savais qu'on allait rigoler, mais je m'attendais pas à autant que ça. Et c'est quand j'ai commencé à écrire les textes que je me dis, ouais, il y a du potentiel quand même. Et c'est là où tu vois que c'est plus simple. Des fois de lâcher des mots sur des mauvaises choses, c'est un peu triste en même temps. Ouais. Mais il y a un côté communicatif quand même de ces jeux-là où il y a deux trois œuvres un peu autres qu'on a évoquées dans cette émission-là. Donc on espère que ça va peut-être même vous pousser à la curiosité, parce que parfois il y a des petites choses qui méritent le détour. En tout cas, nous on s'est éclaté. C'est franchement une très bonne émission, je trouve, pour commencer 2017 et pour se dire que cette année encore, on va s'éclater tous les deux.
Ça marche comme ça. Et ce que je vous propose maintenant pour bien terminer cette émission. Oh, c'est qu'on se refasse le rap de Rogue Warrior. Camarades gamers, camarades mélomanes, bonne soirée, motherfuckers.
Salut les gars!
Fucking ninja style. I'm gonna bring it to them. I'm gonna show them what time it is. Good spot to bring the noise. Ah! You morons will love this. Hope you assholes like fireworks. Ooh! Fucking commies keep getting in my way. Well, surprise, motherfuckers.
Happy fucking birthday.
That's right, Natty, now you sweet piece of shit. Enjoy the ride, cocksucker. Have a nice trip. Boom time, baby. Trick or treat. Looks like a party, come on. I got places to go and people to meet. Assholes are everywhere. Fuckers are out in force. Hi-ho, hi-ho, this fucker's gonna blow. Anytime, anywhere, any place. Ass, take names. Who's the hardest motherfuckers around, huh? Ah. Rock and roll, motherfuckers, rock and roll. Ooh. Ah. I'd seek, motherfuckers. Anybody home? Hey, daddy's here. Come on. Glad to see me, fuckers. Send me the bill, motherfucking cocksuckers. I'm over here, fuckface.
There's gonna be fucking asses bleeding all over the place.
Sorry, assholes. Your quiet day at the office is about to get severely fucked up. Anytime, anywhere, any place. Kicking ass, taking names. Who's the hardest motherfuckers around, huh? Give me a goddamn break. Good place to blow some shit.
it up. What the fuck was I doing again? Yeah, fucking shit up. Drop dead, motherfucker, you fucking amateurs. I own your fucking soul, you fucking commie bitch. Yeah, so capitalism for you, huh, pussy, you fucking shit-eating pig? Time to move. I got bad guys to send to commie heaven.